Le journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
Bonsoir. Une semaine après les inondations meurtrières dans l'Aude, le chef de l'État a passé sa journée aux côtés des sinistrés. Il promet qu'un fonds de 80 millions d'euros sera débloqué dans les prochains jours pour venir en aide aux communes et aux habitants audois frappés par ces intempéries. Reportage dans l'Aude de Benjamin Mathieu. Affaire Khashoggi, la presse turque a encore publié des informations impliquant cette fois le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman dans le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien, publications qui interviennent à la veille de révélations très attendues du président Erdogan. L'Italie maintient ses prévisions budgétaires malgré les remontrances de l'Union européenne. Le déficit budgétaire pourrait atteindre 2,4%, nettement plus que les exigences de Bruxelles. Les explications d'Isabelle Labéry dans un instant. Et puis notre invitée dans ce journal, Émilie Cariou, députée La République En Marche. Elle répond aux questions de Stéphane Robert au sujet de la taxation des GAFA, des géants du numérique. Une semaine après les inondations meurtrières dans l'Aude, le chef de l'État a passé sa journée aux côtés des sinistrés. Il promet qu'un fonds de 80 millions d'euros sera débloqué dans les prochains jours pour venir en aide aux communes et aux habitants audois frappés par ces intempéries. Selon les assureurs, 16 000 déclarations de sinistres ont été enregistrées. Le coût total des dégâts est estimé à 200 millions d'euros. Reportage de Benjamin Mathieu.
Bonjour, monsieur. René et Bernard accueillent Emmanuel Macron devant leur maison dévastée.
Le moral est bon.
Pour l'instant, ça va.
En vêtements et en bottes pleines de boue, ils lui montrent les photos de la catastrophe.
On va faire ce qu'il faut.
On s'est bien.
Un réconfort bienvenu.
Ah, c'est les copains, là.
Le président de la République a un mot pour chacun. Il repart après une vingtaine de minutes.
Bon courage.
Merci beaucoup d'être venu, monsieur le président.
Bon courage à vous.
Axel vit ici avec son compagnon et leur fils de 2 ans. Elle s'est sentie écoutée.
Moi, je lui ai expliqué qu'on avait un crédit qui nous restait plus de 25 ans encore à payer, qu'on ne pouvait pas vivre, qu'on ne pouvait pas payer le crédit maison dans lequel on ne vivait pas, plus un autre crédit. Honnêtement, là, c'est impossible. Il a dit qu'il s'en occuperait.
Il y a même un peu de concret pour René.
Il a emmené avec lui le président donc, des assurances de France, déjà. C'est pas mal qu'il nous a laissé sa carte. Et puis,
ah oui, ça, c'est très concret.
Ça, c'est du concret, oui. Et il nous a dit que si on avait besoin de lui, on pouvait l'appeler.
Mais le quotidien de Christophe Bigou ne va pas changer pour autant.
Le président s'en va, là. Vous allez faire quoi cet après-midi?
On va continuer encore à nettoyer parce qu'il reste encore plein de choses à trier, à nettoyer.
Encore du travail.
Des habitants qui vont changer de vie, plus personne n'envisage de rester habiter ici.
Les policiers ont-ils contrôlé Zakaria, Ilyas et Mamadou parce qu'ils sont noirs et maghrébins? C'est la question que devra trancher la première chambre du tribunal de grande instance de Paris alors que l'audience a débuté ce lundi. En mars 2015, les trois jeunes revenaient d'un voyage scolaire à Bruxelles quand ils ont été l'objet d'un contrôle d'identité Gare du Nord à Paris. Pour les trois lycéens ainsi que la professeure qui les accompagnait, il s'agit d'un contrôle au faciès. Ils demandent de chacun 30 000 euros pour des contrôles sans motif légal au-delà du droit. Eh bien, c'est donc une question de principe qu'ils ont voulu porter l'affaire devant la justice. Les précisions de Lise Amélia qui a suivi l'audience pour France Culture.
Maître Slim Ben Achour termine son plaidoyer de près d'une heure, les larmes aux yeux. Ces enfants, conclut-il, sont notre futur. Les discriminations dont ils sont victimes mettent à mal notre démocratie. À la sortie de l'audience, Maître Ben Achour dénonce un mépris d'État.
L'État ne se justifie pas dans ces dossiers. Il ne garantit pas les droits fondamentaux. On ne dit pas que les policiers sont racistes, on dit qu'ils sont amenés à avoir des comportements et des activités qui ont des effets discriminatoires.
Et c'est tous les jours la même chose, dit Mamadou.
Et si c'est pas moi, ce sera mes petits frères, ou ça fait 20 ans que ça dure et c'est toujours la même.
Alors Zakaria, Ilyas et Mamadou ont tenu à aller jusqu'au bout, à être présents à l'audience. Ilyas, 19 ans aujourd'hui, veut être un porte-voix.
On a des responsabilités, on a voulu que tous les jeunes comme nous, qui n'ont pas l'occasion de parler, nous au moins on prend cette force. Pour pouvoir au moins les représenter et parler.
Parler et exprimer l'humiliation subie, ça demande beaucoup d'efforts, selon Élise Becherel, le professeur qui les accompagnait lors de cette sortie scolaire.
Ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, vraiment, j'en suis extrêmement fière. Ça relève presque du miracle, parce qu'il y a une telle défiance envers les institutions que le fait que tous les trois soient là un an et demi après, pour moi, rien que ça, c'est déjà une première victoire.
La classe comptait 18 élèves, dont 5 garçons. 3 ont été contrôlés par 2 équipes de policiers à quelques centaines de mètres de distance. S'il n'y a pas de cause commune, de quoi s'agit-il? Interpelle Maître Ben Achour. Le ministère public et l'avocat du ministère de l'Intérieur répondent, eux, qu'il n'y a aucune preuve et que sans preuve, il n'y a pas de discrimination.
Délibéré le 17 décembre prochain. Après un an de dénégation, Tariq Ramadan a finalement reconnu avoir eu un rapport sexuel avec les 2 premières femmes qui l'ont accusé de viol. Mais il a affirmé au juge d'instruction que ces relations étaient consenties. La taxation des géants du numérique revient dans le débat public avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui s'en va demain devant le Parlement européen défendre cette proposition. On en parle tout de suite avec l'invitée du 22h, la députée de La République En Marche, Émilie Cariou. Elle répond aux questions de Stéphane Robert.
Émilie Cariou, députée La République En Marche du département de la Meuse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez longtemps travaillé au ministère de l'économie et des finances avant de vous engager en politique et de devenir députée en 2017 et vous connaissez particulièrement bien les questions de finances internationales. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'en va demain devant les députés du Parlement européen à Strasbourg essayer de convaincre du bien fondé de sa proposition de mettre en place une taxe sur les géants du numérique, en particulier ceux qu'on surnomme les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Qu'est-ce qu'on peut espérer du plaidoyer du ministre français devant les députés européens demain ?
Alors, vous savez déjà que sa démarche, elle s'inscrit dans un long mouvement qui a commencé à peu près en 2012, où la France a commencé à alerter, en fait, la communauté internationale, notamment auprès de, devant l'OCDE, pour trouver des solutions de taxation des géants du net, qui ne payent aucun impôt nulle part dans le monde. Donc, demain, l'enjeu, il est très clair, hein, c'est de convaincre, en fait, le Parlement européen d'aller vers cette solution de taxation du chiffre d'affaires des géants du net, qui est proposée par la France. Et donc, il y a beaucoup de pays qui nous ont rejoints, mais pour l'instant, on n'a pas encore l'unanimité, pas tout le monde. Et donc, ça veut dire que si on fait une taxation du chiffre d'affaires, c'est une taxation en attendant de réussir à taxer les résultats comme n'importe quelle autre entreprise. C'est pourquoi la France pousse deux directions avec des projets de directives. D'une part, taxer la présence numérique, c'est ce qu'on appelle l'établissement stable, c'est-à-dire réussir à taxer un résultat dès lors qu'on a une présence numérique dans un État. Et une proposition alternative qui est cette taxation du chiffre d'affaires, hein, qui serait beaucoup plus opérationnelle dans un premier temps, en attendant de pouvoir réaliser réellement la taxation des résultats comme on le fait traditionnellement.
Qui bloque et qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi il y en a qui ne veulent pas et qui précisément ?
Alors aujourd'hui, il y a des États qui sont peu favorables à ce qu'on taxe les activités numériques parce qu'ils accueillent beaucoup d'entreprises numériques sur leur territoire.
L'Irlande verra, en particulier ?
Voilà, par exemple, l'Irlande, traditionnellement, ne veut porter aucun frein au développement de ces activités-là. Alors la France non plus ne veut pas porter un frein aux activités numériques, on veut juste que les entreprises, toutes les entreprises qui commercent sur le territoire européen soient placées au même niveau d'imposition. Parce que vous le savez, que dès lors qu'on n'impose pas certaines activités, ça crée des écarts de concurrence terribles entre les entreprises, et puis pour nos concitoyens, eh ben, ça crée des manques, des trous dans le budget de l'Union européenne et de chacun des États européens.
Alors, il y a les pays du nord de l'Europe qui bloquent, hein, notamment la Finlande, le Danemark, l'Irlande, on le disait. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre ?
Ah bah, pour les convaincre, après, bah, c'est un travail aussi diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos partenaires européens que tout le monde sera gagnant à aller vers une taxation uniforme de ces activités-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut convaincre ces États-là. Alors, ce sont des États qui n'ont pas déjà forcément les mêmes besoins en finances publiques que les États très peuplés de l'Europe, qui se contentent de recettes fiscales plus légères, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous en termes de fonctionnement de l'État. Donc, il faut qu'on arrive à les convaincre que malgré tout, ça va renforcer l'Union européenne tout entière s'ils vont avec nous vers ces projets de taxation. Et il faut qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut plus accepter qu'au sein de l'Europe, certains acteurs ne soient plus fiscalisés, ne payent pas l'impôt alors qu'ils font qu'ils ont des rendements énormes sur la consommation des Européens aujourd'hui. Et c'est un juste retour de choses. Vous savez, l'impôt, il a deux fonctions. D'une part, il a une fonction d'alimenter les recettes de l'État, mais il a aussi une fonction de redistribution. Or là, on voit qu'il y a certaines entités qui ne sont plus dans ce mécanisme de redistribution au sein de l'Europe, et c'est inacceptable.
On voit bien qu'il y a une montée des populismes actuellement en Europe, notamment du fait que l'Europe montre régulièrement son impuissance à mettre en œuvre des politiques, notamment des taxes sur les géants comme ça du numérique. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, il ne faut pas non plus être aussi défaitiste parce qu'on a déjà changé un certain nombre de choses, notamment en matière de TVA. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les recettes de TVA sur la vente de musique en ligne partaient au Luxembourg. Et donc on a changé les règles de territorialité et aujourd'hui cette TVA-là, elle est bien collectée dans les États où sont les clients de ces entreprises-là. Donc vous voyez qu'on peut changer des choses. Moi, je ne suis pas défaitiste parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Europe se montre volontaire et forte, qu'elle affirme sa souveraineté, parce que sinon on va continuer à alimenter les populismes. Mais dès lors que l'Union européenne, que les pays de l'Union européenne se mettent d'accord sur des règles communes, là on devient très très fort et il faut convaincre nos partenaires à aller dans ce sens-là.
Et donc si on n'y arrive pas tout de suite, il faut remettre l'ouvrage sur le métier en quelque
bien
sorte,
sûr,
c'est ce que vous
sûr.
Dites.
Moi j'ai eu l'occasion de mener des négociations communautaires, tout ne se joue pas en un jour. C'est un long travail de pédagogie, d'aller convaincre chacun de ses partenaires. Et petit à petit, on avance. On l'a vu notamment aussi sur la directive sur le droit d'auteur. On a réussi à retourner la position de beaucoup de nos partenaires européens en leur démontrant que ça allait dans le bon sens et que tout le monde avait à y gagner à aller dans ce sens-là.
Émilie Cariou, députée La République En Marche du département de la Meuse, merci beaucoup d'avoir été l'invitée de France Culture.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Interview enregistrée juste avant ce journal. Les suites de l'affaire Khashoggi à la veille de révélations promises par le président Erdogan. La presse turque a publié aujourd'hui des informations impliquant le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman dans le meurtre du journaliste à Istanbul. Peu convaincu par les explications ou allégations de Riyad, une erreur lors d'une altercation qui aurait mal tourné, l'Allemagne suspend ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite et appelle tous les Européens à faire de même à Istanbul où l'on retrouve notre correspondante Anne Andloer.
Très tôt dans l'enquête sur la mort de Jamal Khashoggi, les autorités turques ont fait savoir dans la presse locale et internationale, par le biais de sources officieuses, qu'elles détenaient des preuves d'un assassinat du journaliste saoudien. Et très rapidement, il a été question d'un enregistrement sonore effectué au consulat même au moment de sa mort. Seul un quotidien pro-gouvernemental a affirmé avoir écouté le fichier en question. Mais aucun responsable n'a jamais reconnu publiquement l'existence de telles preuves. Si l'enregistrement existe bel et bien, il s'agit évidemment pour Ankara d'un énorme moyen de pression sur le régime saoudien, qui a reconnu du bout des lèvres une mort accidentelle et non pas un meurtre prémédité et commandité. Moyen de pression, certes, mais sujet délicat. Car comment la Turquie a-t-elle pu obtenir un enregistrement audio effectué dans la mission diplomatique d'un pays étranger ? Assez étonnamment, les télévisions du pays discutent ouvertement du sujet. Certains experts évoquent la thèse d'un agent turc infiltré au sein du consulat, mais la thèse qui revient le plus est celle d'un espionnage en règle. En clair, les services secrets turcs auraient disposé des micros dans le consulat saoudien. Une telle information, si elle se vérifiait et devenait publique, mettrait la Turquie dans un profond embarras diplomatique et entamerait la position de force qu'elle a acquise dans cette affaire.
Et on apprend que Patrick Pouyanné, PDG de Total, se rendra comme prévu ce mardi au Forum économique de Riyad, appelé aussi Davos du désert, jugeant que la politique de la chaise vide ne fait pas avancer les droits de l'homme et par fidélité envers ses engagements avec son partenaire Aramco, le géant pétrolier saoudien. Le bras de fer se poursuit entre Rome et Bruxelles. La Commission européenne s'apprête à rejeter le budget italien. Elle avait pourtant demandé des éclaircissements sur un projet budgétaire jugé trop optimiste, contraire aux engagements pris auprès des 27 en juillet dernier. Dans sa réponse présentée à la mi-journée, l'Italie ne change pas ses prévisions, mais elle se montre plutôt rassurante. Les précisions d'Isabelle Labéry.
Dans sa lettre de 4 pages, le gouvernement italien explique pourquoi il n'a pas le choix. Augmenter les dépenses publiques, appliquer des baisses d'impôts, créer un revenu de citoyenneté pour les plus modestes sont des mesures indispensables, dit-il, pour faire repartir la croissance. Rome ne dévie pas de ses objectifs donc, mais précise que le déficit fixé à 2,4% du PIB est un plafond maximal qu'il ne sera pas dépassé et peut-être même pas atteint. Face à la pression des marchés et de Bruxelles, le président du Conseil se veut conciliant.
Nous voulons dialoguer avec les institutions européennes. Nous voulons que cette discussion se déroule dans un esprit de dialogue constructif.
Nous ne sommes pas une bande de têtes brûlées, dit encore Giuseppe Conte, qui, face à la presse étrangère, rappelle en anglais son attachement à l'Union européenne.
Si ce n'était pas clair, lisez bien sur mes lèvres. Pour l'Italie, il n'est en aucun cas question d'Ital exit, de sortie de l'Europe ou de l'eurozone.
L'Italie s'engage également à réduire d'ici 2021 sa dette aujourd'hui colossale. La Commission examinera demain ces nouvelles propositions.
Élection au Cameroun. Sans surprise, le président sortant Paul Biya a été réélu avec 71% des voix contre 14% à son principal opposant Maurice Kamto. Cela fait 35 ans que Paul Biya dirige d'une main de fer le Cameroun. Il est âgé aujourd'hui de 85 ans. Le temps demain matin, souvent nuageux, de la Franche-Comté au sud-ouest, soleil sur le reste du pays, un peu voilé dans les pays de la Loire et à l'intérieur de la Bretagne. Les températures entre 1 et 11 degrés sur la moitié nord, avec même quelques gelées de la Picardie à la Lorraine, 5 à 15 au sud. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. Très belle soirée.